Ah merde, c'est l'heure. Speakerine en plateau. Enregistreur, s'il vous plaît, merci. Attends, parce qu'il faut que je mette l'autre intro et tout. Oui, bonjour, 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 bonjour. Oh, du sport, ça faisait un bail qu'on s'était pas vu.
Bonjour à toi, Iri.
Ah oui, ça fait exactement 10 secondes qu'on s'était pas vu, voilà. Ah, quand tu veux.
C'est bon, j'ai capté. Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 20 juillet 2013. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h, du sport, les résultats sportifs, en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 15h, du reggae avec Jan O'Dead, et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz de Radio FMR. Mais, dans l'immédiat, voici votre divertissement d'été inédit que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Les dialogues, alors là j'ai envie de dire les dialogues ont le même intérêt et la profondeur non d'égal que l'encéphalogramme d'une grenouille en hibernation et les Saint-Jean Birkin, c'est-à-dire qu'ils sont relativement plats.
Radio FMR présente le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks avec du sport, Ultimatum, Das Creek et la participation exceptionnelle de JB.
Communiqué des services juridiques de Radio FMR. La mention purement sexiste et absolument diffamatoire faite durant cette pré-générique est complètement défendue par Radio FMR. Bonjour Duce.
Bonjour.
C'est la fin des. Il n'y a même pas eu de rediff.
De rediff de quoi?
Ah, du supplément week-end pour
encore. Non.
C'est pas trop le style de la maison. Bonjour et bienvenue. On n'était pas là pendant un mois.
C'est pour ça qu'il y a le podcast. En fait, ça vous permet de réécouter ou d'écouter des fois des émissions que vous avez loupées.
Voilà.
Ça donc, vous donne le temps.
On en est au numéro 354 et c'est le service minimum d'été de canicule puisqu'on va rentrer dans une période suintante pendant un mois, mais on aura beaucoup de spéciales pour signaler ce retour. Puisque je crois qu'il sera question de grosses bébêtes et de gros robots, je crois qu'on a une interview avec un tout petit homme et plein de choses encore qui vont arriver pour la rentrée et un nouveau générique dont on a enregistré la maquette en studio juste 10 secondes avant le direct, comme les pros. Duce, ma foi, je suis désolé, hein, mais j'étais de mariage.
Ah bon, oui, non.
Voilà. Voilà, je sais que Ultimatum, lui, de son côté, il est de Corvée de Monstres, et Morgan est à Paris. Donc quand même, on va essayer d'assurer. Je sais que toi, tu as continué pendant les... Tu as fait la partie musicale de ton côté. Néanmoins, ça t'a permis de prendre le temps de prendre des gros bouquins. Pour l'été.
Oui, pas trop. Enfin bon, bref.
Comment ça? Pas trop. fais-moi rêver, s'il te plaît.
Oui, si, quand même. Enfin bon, pas des bouquins récents, mais celui-là, c'est le plus récent en fait que j'ai lu. Il y a pas si longtemps que ça. Mm. En fait, donc.
Donc voilà. Donc tout à l'heure, on va parler.
C'était le manque, quoi. En fait, c'était un trou, quoi. C'était un trou. Donc il fallait combler ce trou. Hein.
Michael Connelly, tout à l'heure au programme. Moi-même, de mon côté, un bouquin que j'ai mis du temps à ouvrir et je le regrette franchement parce qu'il est vraiment fabuleux. C'est L'homme truqué. En fait, il s'est retrouvé enterré sous d'autres papiers. Bah oui, que oui.
Eh ouais. On va. Parce que si vous saviez comment c'est chez Xavier. Et encore, j'ai même pas envie de savoir depuis qu'il est de nouveau célibataire. Tu vois, parce qu'il y avait une époque, c'était encore pas mal. Mais là. On peut avoir des doutes.
Bon d'accord, je leur laisserai la surprise à ceux qui souhaitent venir. On va parler de réchauffement climatique et pas uniquement de canicule tout à l'heure. On va aussi parler de C'est tout moi. Tiens, à propos de bazar de jeune trentenaire qui a du mal à ranger chez lui. Sauf que moi je suis quand même pas un fanatique de la manette de jeu ni du sport. Et pourquoi tu pars du sport du coup? Non, je parlais pas de toi, je parlais pas de ton pseudo, je parlais. Enfin bon. Bref, vous écoutez le supplément week-end. Nous faisons un petit programme tranquille minimum pour maintenir, je vais dire, votre dose et aussi vous conseiller quelques petits trucs qui nous ont fait plaisir et vous parler un petit peu de ce qui va arriver pour la rentrée. On est en train donc de mettre au point un nouveau générique. C'est pour ça donc que j'en guirlandais un petit peu, enfin on déconnait un petit peu avec du sport. On l'a fait deux minutes avant le direct, pour être honnête. Il y a plein d'autres choses qui sont à parler. On a notamment manqué, puisqu'on n'y était pas, on n'a pas pu y être, donc à Japan Expo pour leur édition anniversaire. Néanmoins, sur ActuABD, l'interview n'est plus en une, et ça je le regrette un peu, il y a une interview fleuve de Dominique Véret. Dominique Véret, c'était un libraire qui était dans une petite librairie dans le Marais à Paris, qui vendait du comics, et qui a réussi à convaincre sa femme et ses associés de se lancer en tant qu'éditeur. C'est comme ça qu'ont été fondées les éditions Tonkam, qui ont vraiment été un éditeur très important, méconnu mais très important sur le manga en France, puisque d'un côté ben il n'y avait que Glénat avec Dragon Ball, donc les pages étaient redressées pour être dans le sens européen, les traductions étaient faites à partir des versions américaines, il manquait les travages et tout ça, et oui, c'était lancé et c'était vraiment la passion qui les guidait, donc ce qui fait qu'il y a une traduction un peu plus proche du enfin c'était carrément à partir du japonais hein, de toute façon édité dans le sens japonais originel. C'est comme ça qu'on a découvert Tsukasa Ohto vraiment dans ce qu'il était. C'est comme ça aussi que on a découvert Video Girl Eye, c'était leur toute première série qu'ils avaient fait, et plein d'autres choses. Dominique Véret ensuite a eu un différend avec ses associés, il est parti, il a fondé Akata, qui est une structure d'aide à l'édition qui conseille principalement Delcourt. Delcourt met fin au contrat, enfin plus exactement, le contrat est arrivé à terme à la fin de l'année. Dominique Véret néanmoins ne s'en démonte pas dans cette longue interview sur ActuABD, très très longue, mais elle vaut vraiment le mérite d'être lue. Je vais expliquer plus loin pourquoi. Il souhaite se relancer en tant qu'éditeur principal, hein, même s'il avait son label chez Delcourt, là ils vont devenir leur propre éditeur à nouveau. Il a toujours eu un programme éditorial en dehors finalement de ce que on attend conventionnellement dans les milieux économiques de l'édition en France. C'est lui qui a lancé Yakitate Japan, qui est le premier manga finalement où on apprend un métier qui a été traduit en France, et qui plus est c'est un manga où on apprend à faire du pain. Quand même énorme que un pays où on mange principalement du riz, on apprend la boulange en France, et ça a été un petit succès quand même, néanmoins d'estime certes. Et Dominique Véret fait plein d'éditions. Malheureusement, il a fait plein de petits et plein d'autres passionnés. Je veux pas dire malheureusement, je veux dire heureusement justement, parce que on n'est plus dans une exploitation, dans de l'édition d'exploitation, je vais dire, avec des escroqueries et tout ça. Non, loin de là. On a vraiment des œuvres originales qui apparaissent. Il y a du crossover qui arrive. Il y a plein d'autres choses vraiment intéressantes qui sont arrivées. Mais Dominique Véret est quelqu'un de très entier, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, les insultes fusent, il est volontiers provocateur, c'est quelqu'un que j'adore, vraiment. C'est par lui d'ailleurs que j'ai eu le goût de la scène musicale underground japonaise actuelle. Dès les années 90, il a essayé de faire venir, d'importer des disques, et d'essayer de faire venir des groupes comme... je les ai oubliés du coup. Enfin, X Japan pour les citer. Il y a eu Return of the Red Eye. C'était qui l'avait fait cet album? J'ai oublié. Voilà, Boom Boom Satellites. Tous ces groupes, franchement, soit mainstream au Japon, soit complètement underground et complètement allumé. Il les a aidés à les faire venir. De ce côté-là, je ne peux lui souhaiter que bon vent. C'est quelqu'un que j'adore pour ce qu'il a amené. Donc voilà. À côté de cela, justement, puisqu'on n'était pas à Japan Expo, on va le regretter encore plus avec le nouveau Zo, le mag, donc le magazine sur la bande dessinée et les arts visuels, qui est disponible dans la plupart des grandes supérettes culturelles. Malheureusement, il y a la principale à Toulouse qui l'est distribuée, qui a fermé, puisque c'était Virgin, on peut le dire maintenant. donc un dossier numéro qui est sorti pour Japan Expo et qui donc est disponible maintenant en distribution un peu partout, où il est question de Radiant qui est publié chez Ankama. Et donc c'est Tony Valant qui fait le pari de l'euromanga, hein, c'est-à-dire dessiner vraiment dans le style graphique des mangas et au même rythme, donc 3 tomes qui sortent chez Ankama, des dossiers bien évidemment extrêmement intéressantes sur donc les grands géants, les post-apo dans le Japon, aussi un pan de la culture otaku pur jus, voilà, celui des nymphettes. Si les magazines de moto et de voitures se vendent énormément au Japon, c'est parce que la pornographie ne se trouve pas en librairie, mais par contre, les filles sont très souvent en bikini dedans. Donc un dossier sur les nymphettes de papier, c'est un bouquin, Gravure Idols, Boy Meet Girls, donc qui... Évidemment, j'aurais dû le lire au fluo. Donc, c'est une exposition qui était à Japan Expo. D'un autre côté, une découverte, c'est Ozoda, qui est un dessinateur un peu dans le style de Miyazaki. Le Japon cyberpunk, on va reparler du cyberpunk tout à l'heure, mais surtout un hommage à Satoshi Kon, portrait en tant que mangaka de ce réalisateur exceptionnel de l'animation, malheureusement qui n'est pas tenu très longtemps, qui nous a disparu il y a 3 ans, mais qui a vraiment révolutionné, on se rend pas compte, hein, franchement. Dans le milieu de l'animation, il a fait des vagues monstrueuses, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et c'est dommage donc que malheureusement on l'ait quitté. Deux bouquins sortis qui sortent chez IMHO Édition, à savoir Opus, donc une série, et un one shot Seraphim de Satoshi Kon et Mamoru Oshii. S'il vous plaît, le réalisateur, ouais, quand même des Ghost in the Shell. Donc, c'est pas rien. Tout ça, donc, c'est dans le zoo, le mag. On parle pas que de manga, bien évidemment, puisque y a plein d'autres choses que je vous laisserai découvrir, extrêmement intéressantes, et je l'ai pas lu. Et bah, tant pis, bah voilà. Restez en studio. Le nouveau, tant qu'on y est, le nouveau Psychopathe vient d'arriver, numéro 255, juillet, août, donc 8€, sans pub, zéro pub. Toujours avec, donc, un magazine. Cette fois-ci qui est épais, hein, 100 pages pour l'été, intégralement en couleur, c'est la nouvelle formule du Psychopathe, avec un dossier sur un passe-temps toujours intéressant en été, nos adorables vide-greniers, où on a un couple, ma foi, dont on devine bien une certaine orientation, bien à droite et bien ancrée à droite, et même d'une certaine collaboration, c'est assez, comme d'habitude, assez violent, et extrêmement hilarant, donc plein de strips sur les vide-greniers. D'autres strips, bien évidemment, beaucoup plus proches de l'actualité. Et des conseils pour devenir un chineur professionnel ou l'art de bien vendre aussi des choses d'une manière à un prix absolument scandaleux. Très noir, très crade, tout ce que l'on veut, tout ce que l'on aime et bien évidemment tout le goût de l'underground. Avec le parfum du papier quand même, ce qui est nettement plus agréable. Bien évidemment, le Psychopathe en kiosque, 8€, juillet-août 2013, donc le numéro 255, nouvelle formule intégralement en couleur, et à faire plaisir à ceux qui ne peuvent pas voir le noir et blanc. Je sais pas, après tout, il y a bien les daltoniens qui ne voient pas qui différencient mal les couleurs. Il y a peut-être des gens qui différencient mal le noir et le blanc, mais qui voient très bien les couleurs. Non, c'est nul. C'est très dur, désolé. Alors justement, il y avait un dossier donc dans Zoo sur le manga manga cyberpunk avec le retour d'une des héroïnes de Ghost in the Shell en manga, donc section 9 qui va arriver. J'attends ça avec impatience en tant que gros fan de Ghost in the Shell de ce côté-là de la BD, hein, bien évidemment. Et là, je vais vous parler de l'homme truqué de Serge Le Mans et Jess au dessin, c'est dans la collection L'Hypermonde, édité par La Talente, donc qui est une librairie de science-fiction qui est basée à Nantes, si je me trompe. Et Jess, ben voilà, Jess, moi j'adore ce dessinateur. La première BD de lui que j'ai lue, c'était Teddy Bear, c'était en 1992 chez Zenda. Putain, ça fait 20 ans. Tendance cyberpunk pur. C'était l'histoire d'un policier drogué dans un monde sururbanisé, surinformatisé et totalement corrompu. Par la suite, Jess a créé l'excellente série Carmen McCallum chez Delcourt, la saga d'une mercenaire contractuelle des mafias, toujours dans un futur cyberpunk très proche, très moche et très bien corrompu. Donc pour moi, l'univers de Jess, ce sont des équipements blindés avec une imposante coque plastique, des armes à feu, ma foi, d'un fort beau gabarit, des hologrammes tueurs, des visages burinés et surtout, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup de drogue. Bah oui. Alors, j'ai pas lu les romans de Serge Le Mans, mais Immortel, qu'il a scénarisé pour Bilal, eh ben déjà, on imagine très bien quel est son univers. Je sais, ça fait léger, mais en tout cas, moi, de suite, ben, j'imagine quelles sont ses affinités et tout ça. Et donc, ce fut une sacrée surprise que de découvrir ces deux signatures dans un bouquin qui se passe au sortir de la Première Guerre mondiale. D'un coup, je me suis souvenu que William Gibson, Bruce Sterling et plein d'autres auteurs phares du cyberpunk des années 90 sont passés à l'heure victorienne, décrivant des ambiances lourdes au gaz de ville, mues par d'immenses chaudières, un monde sururbain câblé au réseau pneumatique et beaucoup de drogues, morphine, cocaïne, absinthe et gin. Alors j'ai pris une grande respiration et j'ai plongé dans cet univers pleine vapeur. Et là, je rejoins le capitaine Le Bris, l'un de ces vaillants jeunes, promis d'avenir, fauché par une bombe sur le chemin des dames en 1918. Aveugle, le visage horriblement mutilé, son calvaire ne s'arrête pas là. Dans l'heure où son corps a été soufflé, il se fait kidnapper dans une mystérieuse machine souterraine, une taupe mécanique impressionnante, qui est allée le chercher donc au milieu d'un combat dantesque. Là, des inconnus lui feront subir une opération osée, coiffant sa tête d'un appareillage qui lui permet de retrouver une vision qui n'a plus rien d'humaine. Une vision où il voit les réseaux d'énergie et où les notions de beauté et de laideur sont toutes différentes. Le Bris réussit à fausser compagnie à ses geôliers sauveurs, se réfugie dans une forêt au nord de Paris. Il vit de nuit pour quelques rapines, entretenant contre son gré une légende de croque-mitaine dont sont avides les journaux à la scandale de l'époque. Son cas intéresse bien des gens et Marie Curie et son ami le Nyctalope semblent à mieux de le retrouver. Marie Curie, oui, c'est une justicière discrète, d'où son surnom dans les journaux à sensation, la reine du radium. C'est aussi l'une des très grandes spécialistes de la super science, cet ensemble de disciplines qui font avancer les techniques à une vitesse stupéfiante. Après tout, n'est-ce pas elle qui a découvert une puissance énergétique sans aucune comparaison avec le gaz, le pneumatique ou la vapeur ? Alors qu'ils arrivent à mettre la main sur le pauvre capitaine Le Bris, peut-être vont-ils pouvoir le soigner et comprendre qui a fait cette opération extraordinaire ? Et surtout, dans quel but ? La référence à des affaires politiques, à la vie culturelle du Paris de 1918 et bien sûr à la vie quotidienne pullule. Dans de la rue parisienne renommée pendant la guerre, aux sorties cinéma et bien sûr à la presse à sensation de l'époque, qu'une une du petit journal, et je parle du journal papier à sensation de l'époque, introduise un nouveau chapitre, qu'une affiche façon art nouveau ou même une photographie qui clôt l'album, c'est un véritable bonheur à lire. Moi franchement, j'ai senti que l'album vit dans cette chronologie parallèle. Il y a aussi d'excellentes idées de mise en scène. Et la superbe idée des feuilletonistes attitrés aux super-héros. Franchement, je me suis pris mon panard. J'ai eu la même frisson que celui que m'a procuré Tardi dans la série Adèle Blanc-Sec. C'est dire, franchement, la montée que j'ai eue. Et du coup, cela donne envie de découvrir les 6 précédents albums qui réunissent une partie des personnages, à savoir la brigade chimérique. Surtout dans l'idée géniale que Marie Curie est une espèce de précurseur du professeur Xavier. Finalement, que les auteurs du cyberpunk des années 1980-90 se mettent au steampunk, c'était une transition évidente. Et l'évidente influence de la ligue des gentlemen extraordinaires en donne un souffle encore plus épique. L'homme truqué, scénario Serge Le Mans, dessin Jess, est dans la collection L'Hypermonde chez La Talente et franchement, du bonheur. Du sport en tout cas, il s'est fait plaisir quand il a feuilleté les pages. Et n'oubliez pas de nous insulter sur le compte Twitter de l'émission Petit Oiseau @supweekend.fr, supweekend, tout attaché, et vous pouvez y aller comme des malades. Je vous lis en même temps que je lis mes chroniques. Ouais, je sais, c'est pas évident. JC Parnot, on va complètement changer de style, ça s'appelle Écolo Manchot, Éternelle Banquise, apparemment c'est un one-shot, c'est aux éditions Pâte à Pan, c'est une nouvelle maison d'édition qui s'est lancée, je crois qu'ils sont du côté de Montpellier. Bref, c'est des gens qui sont en ce moment justement qui subissent de plein fouet le réchauffement climatique, saisonnier. Manchot, c'est le petit triste habitant d'une banquise qui fond à vue d'œil sous l'effet du réchauffement planétaire. Alors, évidemment, il en est triste. Il aimerait bien sauver son habitat. Mais finalement, il vit comme il est. C'est-à-dire, il est pas sûr de faire finalement beaucoup d'efforts, mais il a des bons principes. C'est un brave gars, mais bon, voilà. Il prend la vie comme elle est. Manchot n'est pas seul sur sa banquise qui chaque jour perd quelques mètres carrés, voire même des hectares complets. Il y a l'ours Trouvaille, il y a le morse Tita, et les autres habitants qui ont tous un petit métier qu'il faut sauvegarder ou faire évoluer en fonction de ce changement. Alors quand on lit les premières pages, en voyant le dessin naïf, trop mignon du manchot, on se dit que c'est un album pour les enfants, dont l'humour est prétexte à un moralisme écologique. Bon, et puis, commencent à arriver certains personnages, certaines situations. Et là, l'adulte aussi commence à rigoler, voire franchement à se marrer. Car certaines situations sont très bien vues et parfaitement tournées en dérision. Que cela soit le management en entreprise, les forfaits téléphoniques à fulminer, les initiatives politiques totalement débranchées de la réalité, ou encore les industriels qui jouent de la lessiveuse greenwashing. Petite parenthèse, greenwashing, c'est quand on dit qu'on fait quelque chose pour l'environnement, alors qu'en fait c'est faux. Voilà. Franchement, j'ai passé un bon moment à le lire. Alors qu'au départ, je me suis dit, je vais voir ça, mais ben non. Franchement, c'est sympa. On est dans un format dessin de presse avec des strips à géométrie variable. Un strip, je rappelle, c'est 3-4 pages à l'horizontale, mais 3-4 images à l'horizontale en une ligne. Mais là, justement, la hauteur des lignes varie. Enfin, même des fois, on a une planche complète. Et ça permet à la fois de garder la concision du gag de situation et ça évite aussi un risque de monotonie. Alors évidemment, à la fin, il y a un petit dossier pédagogique sur les causes et conséquences modernes du réchauffement climatique, de la montée des eaux, de la fonte des glaciers et des banquises. Je vous apprends rien, oui, mais quand même, ça nous concerne malgré tout. Mais c'est l'album qui, sous un couvert de simplicité, peut avoir de multiples angles de lecture. Un album qui pourrait faire fondre la glace, et pas que chez les gosses, finalement. Écolo Manchot, Éternelle Banquise, JC Parnot, c'est aux éditions Pâte à Pan, et donc c'est disponible en librairie. Et oui, ça vous fera vraiment plaisir. Je sais pas si du sport d'ailleurs du coup va le prendre pour essayer de le faire lire à ses gamins.
Pourquoi pas.
Les sensibiliser à l'écologie, non, c'est pas garanti.
Oui, tu sais, je pense qu'ils ont pas besoin de moi.
Ah, dans l'autre sens. Ah d'accord, ok. Espèce de punk. On va parler d'un je m'en foutisme, d'un trentenaire bien dans ses baskets, quelqu'un finalement qui est un peu comme les gens de l'équipe.
Parle pour toi.
Fortu, c'est tout moi, c'est aux éditions Poivre et Sel. Les éditions Poivre et Sel, on avait parlé avec l'histoire ronde de nuit d'un dessinateur qui finalement pour pouvoir vivre était devenu vigile dans un grand hôtel parisien. Là, c'est sur le même format, même principe, c'est un format taille A5 cartonné avec une quarantaine de pages. Sauf que là, on sent une fois de plus que c'est une autobiographie, ce livre. Bah, après tout, oui, c'est tout moi, ça explique, c'est marqué dans le titre, hein, c'est comme le Port-Salut. Et José, alias Fortu, il est graphiste en agence de pub, il va bientôt devenir papa, ce qui veut dire forcément tout plein de responsabilités. Mais difficile de perdre son petit confort. Les copains, les soirées foot, PlayStation, bière, pour celui de personne responsable et adulte qui va changer les couches du futur gosse à 4h du matin. Bref, il est de la génération adolescent, pas très ouvert sur son entourage immédiat. Là, on peut pas dire que des fois il soit très éveillé à ce qui se passe autour. Et ignorant bien souvent des soucis de sa femme Caro. Et lorsque l'heureux événement aura enfin lieu, on ne va pas non plus dire qu'il arrive à apporter une réponse cohérente aux stimuli envoyés par le petit bout de chou qui vit désormais dans son appartement. Bah ouais, non. On va dire des fois que ça, c'est... Non. Non, c'était pas ça qu'il fallait faire. Alors Fortu se dessine un orthoportrait, Linkrad, et sur un angle très critique, assez... Et c'est, entre nous, c'est aspicé dessus de rire. Mais bon, c'est la vie quotidienne, on n'accroche pas justement au style, c'est un peu ça. Aussi, le problème et la difficulté de l'exercice et d'approche de cette lecture. Le difficile apprentissage du métier de père, visiblement, il y a beaucoup de boulot pour Fortu et il n'est pas aidé par lui-même, on va dire. Alors Fortu, à noter qu'on retrouve la suite de ses aventures, justement la suite de l'histoire, dans le dernier psychopathe, psychopathe numéro 255, justement là, celui que j'ai chroniqué en début d'émission et qui est actuellement en kiosque. Fortu, c'est tout moi, c'est aux éditions Poivre et Sel. Radio FM 12h26min 57s sur l'horloge atomique de la radio. Ce grand moment langoureux, lent et monotone de lassitude de poisse sous la superbe canicule que l'on a aujourd'hui vous est offert amicalement. Ça va pas s'arrêter, je vous promets, du Sébastien Tellier à la fin de ce morceau. De son premier album Sexuality, elle. du sport trouve cette musique particulièrement suintante et pour d'autres raisons.
J'en dirai pas plus.
Mais je tiens à signaler pour ceux qui ne sont pas d'accord et qui sont passés d'un certain âge et qui souffrent en ces temps de canicule, qui peuvent appeler la mairie de Toulouse 0800 042 444 avec des dépliants qui vous seront offerts sur l'art et la manière de se rafraîchir avec autre chose que de la pop de région parisienne. C'est nul. Programmation d'été, très hippienne pour le coup.
Oh ouais.
Ah ouais, non, dans la playlist là.
Non, mais tu vas comprendre pourquoi.
Ah, super. Plus tard.
Alors, on va parler un petit peu de trucs qui se lisent encore, mais là avec un peu moins d'images, on va dire. Tout d'abord, on va commencer par un numéro exceptionnel. Exceptionnel, mais exceptionnel de SoFoot. Parce que ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que SoFoot existe, donc.
Alors qu'on regardait tous avec des regards curieux de voir que les mecs de Technic Arts sortir un bouquin sur SoFoot. Moi, je me souviens qu'on était tous. Enfin. Et en fait, finalement.
Ou alors que Technic Arts c'est tout pourri, quoi. Et SoFoot, ça tient la route, quoi.
Et ouais.
Et ils en sont au numéro 108, donc.
Hein, et nous on est bas, on est au 354.
Oui, non mais ça c'est pas grave. Eux ils en font qu'un par mois. Et encore, le numéro d'été il fait pour les deux mois, tu vois. Donc ils font 11 numéros plus éventuellement un hors-série par an. Plus le hors-série Pédale, hein, qui est également sorti, que vous pouvez vous procurer, qui est excellent comme chaque année. Il y a qu'un numéro par année qui sort au moment du Tour de France. Procurez-vous-le si vous aimez le cyclisme, parce que là, interview de, il y a un super truc sur Contador, il y a des interviews pas mal, je me rappelle pas de qui, enfin, ça vaut vraiment le détour. Le SoFoot, bon, donc ça fait 10 ans, et pour ces 10 ans, eh bien, ils nous ont décidé de nous faire un spécial numéro 10! Numéro 10 dans le football. Alors, il est disponible en deux couvertures.
Platini!
Celle-là, Platini.
Ouais!
D'accord.
De dos. Hein, ah, trop facile.
De dos avec, c'est le maillot de quelle équipe, là?
Je sais pas, je l'ai reconnu au ballon de foot. Bon, c'est les derniers ballons de foot.
Noir et blanc, les rayures, la Juventus, bien sûr. Et, sinon, vous pouvez également avoir celui-là avec la gueule de Zidane en gros plan, en couverture. Mais, alors, c'est.
Avant ou après le coup de boule?
Il y a absolument que des articles concernant des numéros 10. Alors bien sûr, il y a des petites histoires de 10 et tout, ça raconte des histoires de mecs qui ont joué numéro 10, mais enfin bon, qui ont plutôt pu péter un câble ou qui ont pas réussi, il y a ceux qui ont loupé le coche, mais il y a également tous les plus grands, hein. Il y a également l'avis des entraîneurs qui parle du fait d'avoir un numéro 10, qu'est-ce qui a changé par rapport à avant et tout, enfin bon bref, mais il y a l'interview des plus grands, à savoir Platini.
Il est pas si grand
Zidane,
que ça.
Zidane.
Oui, Zidane est plus haut que moi, oui.
Non, mais je parle pas de ça, quoi. Mais Zidane, donc, qui se sont prêtés au jeu et qui se sont dit, ok, quoi, et qui font des interviews. L'interview de Zidane est quand même vachement long, quoi, c'est pas mal. Et alors bon, c'est pas mal parce que tu regardes la phrase en exergue et tout, c'est tiré de l'interview.
Moi, je n'ai rien demandé. Je voulais être chauffeur-livreur.
C'est un Zidane qui est complètement décomplexé, qui parle de sa vie future et tout, enfin, de sa vie d'entraîneur à venir. Et, c'est vraiment très très bien. Et puis, on n'a jamais appris autant de choses sur lui, venant de sa part, de tout ce qu'il a fait, hein, je veux dire, de sa jeunesse, voire de ses années passées au Real et dans d'autres équipes et en équipe de France, que sa bouche là dans cette interview.
Ben finalement, il fallait le recul de la fin de la carrière de joueur, je pense peut-être. Parce que il a pas fini sa carrière, honnêtement.
Bah si, il l'a fini, hein. Il le
dit
d'ailleurs.
Mais il peut être entraîneur,
Quoi. Là, il va se préparer à être entraîneur. Il est entraîneur adjoint du Real de Madrid, donc, hein, sous les désordres de Carlo Ancelotti. Mais il sait pas en plus, hein, dans cette interview, il le dit. Il sait pas. Bon bah ok, je débute dans ma nouvelle carrière. Maintenant, je suis plus joueur de foot. C'est terminé pour moi, quoi. J'ai fait une croix. Maintenant, il joue au foot comme il jouait au foot quand il était petit. Et qui jouaient au foot, hein, parce que bah il y avait rien d'autre à foutre, et puis bon que ça leur plaisait, quoi, surtout, quoi, c'était pour le plaisir. Après, t'as exactement également tous les numéros 10 du Brésil, le Brésil 70, alors Zico bien sûr, tout cela, Hadji, enfin bon, c'est la totale. Et puis bon, tu regardes l'épaisseur du truc, c'est globalement le double d'un ouais. numéro normal.
Bon, il doit, c'est normal. Il doit faire 196 pages, je vais
dire. 200 pages.
Hé, hey, gagné
ouais, 200 pages. Et puis, bon, je te ferai remarquer que, bon, ben, côté pub, hein, c'est absolument, ça n'a rien à voir, bien sûr, avec d'autres canards, avec d'autres périodiques. Il y a quand même quelques pubs, enfin bon, généralement, en plus, c'est des autopubs, quoi. Ok, et pour un prix modique de 5 euros. Alors, bon, ben, ça vaut quand même le coup, donc procurez-vous-le vraiment très, très vite fait. Passons à présent au petit polar de plage sympathique. C'est la dernière sortie de Michael Connelly. Ça fait quand même quelques mois qu'il est sorti hein, dans sa version française. Alors qu'en fait, en version originale, il est sorti il n'y a pas moins de 2 ans. Ça, c'est un peu plus con, hein, on va dire, parce qu'il est sorti en 2011 dans sa version originale. Le cinquième témoin. Alors, on délaisse un petit peu l'inspecteur Bosch. Et là, il s'agit de Mickey Haller, le demi-frère, en fait, hein, de Harry Bosch, qui est le héros de cette aventure du cinquième témoin, Mickey Haller, qu'on avait découvert dans la Défense Lincoln, ou The Lincoln Lawyer en version originale, et Défense Lincoln qui a été adapté au cinéma avec Matthew McConaughey dans le rôle titre, qui s'appelle comme ça parce qu'en fait, il n'a pas de bureau, il est avocat de la Défense, il n'a pas de bureau, et donc il se déplace dans, il a plusieurs Lincoln des voitures, hein, des Ford Town Car, aménagé avec imprimante dedans, laser, wifi, tout le bordel et tout. Et c'est son bureau en fait, sa bagnole quoi. Il a un chauffeur, il est à l'arrière et puis c'est comme ça quoi. Et il a quand même un petit bureau, mais c'est l'appart de sa soi-disant secrétaire qui est là pour répondre aux coups de fil et pour dispatcher un petit peu. Mais c'est tout, sinon il a pas... Il a pas de bureau du tout quoi. Donc de ce côté-là, ok, il est un petit peu spécial. C'est pour ça qu'on l'appelle le Lincoln Lawyer. Alors on l'a vu, je vous en ai parlé également dans Volteface, hein, The Reversal, dans lequel il passe du côté de la défense au côté de l'accusation pour rejuger un type qui avait été condamné, mais l'ADN prouve son innocence. Enfin bref, et là dans ce bouquin, il est conjointement avec Harry Bosch dans l'aventure, donc hein, c'est pas mal. Celui-là était vraiment pas mal. Et là, bah, il revient donc dans le cinquième témoin. Alors, il avait l'habitude, lui justement, quoi, avant, bah, de défendre justement la Lee, hein, savoir il était bien pote avec les bandes de motards parce qu'il les défendait pour des histoires de dope et tout, vice de procédure et tout ça. Il arrivait toujours à magouiller, enfin, comme arrivent à le faire les très bons avocats de la défense, on va dire. Mais il était plutôt, on va dire, du côté des faibles et des opprimés. Et là, bah, il continue et c'est un petit peu plus dans l'air du temps car il s'est spécialisé un petit peu dans la défense des gens dont les biens ont été saisis, dont la maison a été saisie suite à la fameuse faillite qui a entraîné eh bien beaucoup de gens quoi à la rue parce que bon bah ils avaient acheté une maison pas chère hypothéquée et que bah les banques bah se retournaient contre ces gens-là parce que ben les intérêts avaient flambé d'un seul coup et donc disaient bah non on peut plus payer bon bah ok foutez le camp dégagez c'est notre maison donc il y a beaucoup de gens aux États-Unis ça a fait grand bruit hein de toute façon cette histoire et donc Michael Connelly se sert de l'actualité donc pour l'intégrer dans son bouquin car Mickey Haller lui commence à être un petit peu l'avocat de ces familles là de ces gens qui ont été dépossédés de leurs biens. Alors bien sûr, alors c'est il y a une espèce de mise en abîme quand même où à un moment donné Mickey Haller sonde le fond de sa pensée se dit bon bah moralement est-ce acceptable parce que je fais quand même partie du système parce que je profite également du système en engrangeant du pognon, en défendant ces gens, sachant que de toute façon, je ne fais que retarder l'inévitable, à savoir l'éviction pure et simple, hein, et il y a jamais de contrepartie positive où il va gagner et il va pouvoir faire réintégrer les gens. Bon,
c'est absolument pas faisable, malheureusement.
C'est pas faisable, il arrive juste à retarder l'échéance et tout.
Enfin, s'il y a une pirouette juridique, c'est qu'aux États-Unis, les banques sont toutes petites et en fait, accordaient des prêts, mais c'était que des courtiers. Et en fait, il y a plein d'Américains qui ont gagné l'annulation de leur prêt tout simplement parce que le papier avait disparu, il n'y avait plus de preuves du contrat.
Ah oui, non, mais de ce côté-là,
c'est ce qui a acculé à la faillite Mahé, hein, qui est l'un des plus gros réassureurs de banque. Justement, de ce côté-là, c'est la disparition de la preuve.
Eh oui.
Numérisée.
Eh oui. Alors là, dans ce cas, eh bien. Tout pourrait paraître normal, bon bah pas de quoi faire un bouquin, sauf que l'une de ses clientes justement hein, qui doit être foutue à la porte de sa maison, enfin qui va être expropriée très prochainement et qui l'a pris comme avocat, eh bien se retrouve accusée du meurtre d'un des responsables de la banque qui justement va saisir la maison dans laquelle elle se trouve. Et il se trouve quand les flics arrivent à dégoter quelques preuves indirectes, on va dire, un petit peu de sang de la victime qui se retrouve sur une chaussure dans le garage de l'accusé, enfin, mais des preuves qui sont quand même un petit peu indirectes. Et donc, eh bien, tout naturellement, Mickey Haller va être chargé de sa défense au criminel et pas là.
Ouais, on n'est pas au civil, quoi.
On n'est pas au civil. Là, c'est au criminel et tout, quoi. Alors que justement, suite à l'affaire de Jessop, l'affaire de volte-face, il s'était juré de ne plus jamais défendre ou de même de comparaître, enfin de paraître pour une affaire au criminel. Hein, bon, bah, je laisse ça aux gens qui n'ont pas encore vu The Reversal ou Volteface, parce que ça vaut le coup, hein, c'est vraiment un très très bon bouquin. Et là, bon, bah, ok, c'est pour ça qu'il s'est tourné plutôt sur ce genre d'affaires où, bon, bah, ok, il n'y a pas mort d'homme, donc ça va, c'est plus cool, en fait. Et bah, là, bah, il y retourne et ça commence à devenir de pire en pire, parce que, bon, bah, ce qui se passe aussi aux États-Unis, qui est assez intéressant, c'est qu'à partir du moment où un avocat défend une cliente, il peut s'arroger le droit de défendre ses affaires qui vont découler du procès et de l'avant-procès, à savoir que si c'est une affaire qui suscite l'attention des studios de radio, des studios de télé pour les interviews de l'accusé, des studios de télé ou des studios de cinéma pour adapter l'histoire des écrivains ou des auteurs pour adapter ça en bouquin, tous les droits vont être gérés par l'avocat qui est à la défense. Donc il y a également une grosse part de pognon qui est en jeu, quoi. Je veux dire, donc il y a plusieurs directions qu'il faut suivre et tout. Et là, bon, bah, justement, il faut savoir jongler avec ce genre de truc. Et bon, Mickey Haller, bon, bah, il est pas trop chaud. Et comme d'habitude chez Connelly, il y a toujours des personnages intermédiaires qui viennent se glisser dedans et qui viennent foutre la merde en plus. Alors bon, fait notable, c'est que Harry Bosch n'apparaît qu'à un seul moment et en plus insignifiant, parce qu'il s'agit juste d'un moment où on réunit toute la famille, enfin toute la famille entre guillemets, pour son anniversaire, son jour d'anniversaire, en pratiquement en plein procès, où il s'accorde un petit jour, une demi-journée de détente pour fêter l'anniversaire, et où Bosch se retrouve là pour boire un petit coup, manger un bout de gâteau et c'est tout, quoi. Il ne dit même pas un mot de tout le bouquin de toute façon, quoi. Donc, vraiment, c'est le personnage secondaire. Mais bon, avec Connelly, on se dit, bon, bah, ça va finir tranquille, peinard, il n'y a pas de problème. C'est c'est pas vraiment un police procédural, c'est plutôt un court procédural, hein, c'est-à-dire tout se passe pratiquement au tribunal, hein, que ce soit dans la salle de
la salle jurys, d'audience, dans les pas perdus,
dans le bureau du juge, toutes les magouilles, bon bah ok, c'est vraiment écrit techniquement, quoi, mais alors sans faille de ce côté, quoi, c'est nickel, il y a pas de problème. Et bon, ben, par contre, bon, moi, la fin me laisse un petit peu dubitatif, on va dire, hein, j'en dirais pas plus, quoi, mais disons, il y a un petit artifice qui pourrait être bienvenu et qui en fait pour moi personnellement me fait un petit peu tomber le truc à plat. Ça reste néanmoins un bon bouquin à lire où on s'emmerde pas trop quand même, quoi. Ça c'est quand même l'essentiel. Mais Connelly a fait quand même vachement mieux de par le passé. On espère que le prochain qui doit sortir en décembre pour la version américaine, hein, qui s'appelle The Gods of Guilt, sera un petit peu mieux. Moi, je pense que c'est peut-être le retour de Harry Bosch. Quoique Harry Bosch commence à se faire vachement vieux, donc il va bientôt plus ou moins partir à la retraite ou être un petit peu dessoudé, quoi, histoire d'en finir une bonne fois pour toutes. Ce sera dommage, mais enfin bon, qu'est-ce que tu veux, hein.
On verra.
Alors, c'est le Michael Connelly, le cinquième témoin, c'est chez Kalman & Levy. Alors, avant, tous les Connelly étaient sortis chez Seuil. Exception de Volt à partir de Volteface, donc, c'est-à-dire l'année dernière, en disant que c'est eux qui, Kalamanvi, qui ont récupéré l'édition française. Mais par contre, ils font pareil que Seuil, c'est-à-dire, bon, un an, voire deux ans de décalage entre l'édition américaine et l'édition française. Donc, merci les gars, hein, mais bon, c'était pas la peine.
Bon, ça, enfin. Pour ceux qui ont peut-être un peu de mal avec l'anglais, un petit peu fourni et vivant, on va dire.
Ah oui.
Oui, pardon.
Alors en plus, ce qu'on écoute là, c'est Art Pepper, un morceau de son album Meets the Rhythm, Section, qui était la section rythmique de Miles Davis à l'époque. Mm-hmm. Et Art Pepper est un des auteurs les préférés de Michael Connelly, parce que c'est l'un des plus cités, on va dire, dans l'œuvre de Michael Connelly.
Je voudrais juste poser une question comme ça à tout hasard. Il y a eu le verdict cette semaine assez controversé de George Zimmerman. Donc on rappelle, hein, c'est un vigilant. Hein, c'est un groupe de citoyens qui protègent, je veux dire, leur rue, qui patrouille pour voir s'il n'y a pas des fractions, etc. Et qui a tiré dans le dos d'un adolescent noir qui, dans la nuit, croyait qu'il était un voleur alors que c'était un de ses voisins. Est-ce que tu penses que justement de ce côté-là, il y a matière à ce que des grands auteurs se mettent derrière et le déclinent?
De toute façon, c'est ce qui s'est passé pour Michael Connelly en fait, hein, puisque le déclic pour lui dans sa carrière, ça a été son reportage sur les émeutes de Los Angeles qui faisait suite au tabassage de Rodney King. Émeutes, rappelez-vous, hein, qui ont fait quand même près de 200 morts, hein, et je sais pas combien de milliers de blessés. Quand on démage matériel, on les compte,
on les a comptés en dizaines de milliards. Ouais.
Plusieurs milliards. Et lui, justement, quoi, il était reporter des affaires criminelles. C'était le reporter d'affaires criminelles au Los Angeles Times. Il a fait ce reportage.
Ah oui, il était en plein dedans, oui.
Ouais, il a fait ce reportage donc qui lui a valu le prix Pulitzer et ça lui a mis un petit peu le pied à l'étrier pour sortir son premier bouquin qui s'appelait Les Égouts de Los Angeles en 92-93, juste après donc ces fameuses émeutes de Los Angeles. Bon, le bouquin était déjà en route, hein, je veux dire, c'est pas juste après quoi, mais bon, ça lui a mis un petit peu le pied à l'étrier cette histoire. Mais il en parle régulièrement parce que bien sûr dans tous ses bouquins, y compris Le Cinquième Témoin, ça se passe à Los Angeles, hein. Donc il y a toujours l'histoire passée qui ressurgit comme ça quoi, parce que bon, bien sûr, politiquement, quand on aborde les côtés politiques à Los Angeles, eh bien on fait référence à ce qui s'est passé. Rodney King en est un exemple qui est très souvent cité de toute façon.
Puisqu'on parle justement de la carrière de Michael Connelly, je crois qu'il a été adapté au cinéma, je ne suis pas sûr.
Eh bien, il y a eu Créance de sang qui a été adapté par Clint Eastwood, donc avec Clint Eastwood, qui d'ailleurs n'a pas été très bien accueilli, enfin, qui n'a pas été tellement apprécié par Michael Connelly, on va dire. Il y a eu la défense Lincoln, donc hein, Lincoln Lawyer là, qui lui par contre, il a bien plu et sinon,
Qui est en cours de diffusion sur les chaînes Ciné Plus d'ailleurs en ce moment, il me semble, si vous l'avez pas vu. Du sport est en train de chercher, voilà, rapidement.
Et c'est tout quoi. Yes, c'est tout.
Je suis embêté du coup parce que là je suis sur la fin d'un morceau. Hop, il faut que je zappe à la volée. Changer de disque. Vous écoutez Radio FMR, c'est le supplément week-end, 12h50 minutes, émission service minimum d'été 354. Littéralement autre chose. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a dans la boîte aux cons cet été? À l'heure du sport, est-ce que tu as regardé le nouveau Dallas?
Je t'avoue franchement, non.
Moi non plus.
C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont déprogrammé d'ailleurs.
Ah, il est déjà déprog?
Ah oui.
Oh, enfoiré, ils ont fait une telle pub.
Non, depuis samedi dernier, il n'y avait pas Dallas. Hein. Déprogrammé en troisième partie de soirée.
Ah oui, ce qu'il n'avait même pas terminé, ce que, oups, zou. Ah ouais, à force d'être programmé par paquet de 12 et ne pas laisser le temps aux séries, belle balle de gâcher. Ce qui a tué JR finalement, c'est l'indigence de la programmation de TF1. Ah, désolé, il fallait que je la fasse celle-là. Alors, qu'est-ce qui reste? Crois que sur CinéFX, ils font une spéciale grand monstre caoutchouteux japonais.
Oui, j'allais en parler.
Mais on aurait voulu si j'en parle pas.
C'est plus tard parce que c'est le vendredi. Tout d'abord, la série qui risque de dépoter et qui risque... Bon, il y en a d'autres, hein. Bon, on en a vu d'autres avant, hein. Deadwood, il y a également Hell on Fire qui passe en ce moment sur D8, je crois, ou un truc comme ça. Et là, c'est encore une série western. Pas vraiment une série, parce que c'est plutôt une mini-série, enfin, trois téléfilms. Hein, c'est pas une série qui est passée sur une chaîne du câble normal. Genre une chaîne qui va acheter les droits pour n'importe quelle histoire parce que ça va lui faire faire des taux d'audience, des trucs comme ça et tout dans n'importe quel style. Non, c'est une série qui est sortie sur la chaîne History.
Donc, mais c'était pas la première fois. Ils avaient fait ils avaient fait la série très 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 controversée sur la mort de Kennedy.
Ouais, aussi c'est vrai.
Qui a même été alors ils l'ont financé. Ils l'ont pas programmé finalement parce qu'ils ont dit non finalement on n'est pas d'accord avec les angles pris, il y a eu de trop grosses libertés. Finalement ça a été récupéré par FX si je me trompe.
Peut-être. Enfin, qui avait été diffusé sur Arte d'ailleurs.
Oui.
Alors il s'agit on parle justement de l'adaptation de la grande histoire, on va dire, hein, l'histoire internationale. Là il s'agit de l'histoire, de la petite histoire. Enfin, la petite histoire que les Ricains aimeraient bien avoir. Ils aimeraient bien avoir une histoire. Ça, ça date depuis l'arrivée des premiers colons aux États-Unis, quoi. Ils aimeraient bien avoir autant d'histoires que les Européens, que les Anglais, que les Italiens.
Ils aimeraient avoir leur Fort Boyard.
Voir que les Grecs. Mais bon, c'est pas possible. C'est pas possible parce que avant il y avait que les Indiens.
Ils ont tué.
Et puis il en reste pas des masses. Et puis en plus, ils les ont tellement saoulés au sens propre et figuré que les mecs se souviennent pas. Alors c'est pas compliqué. Quoi. Voilà. Et dans la petite histoire américaine, il y a pas mal de légendes et tout qui nous disent rien, franchement, quoi, quand on entend parler de ces gens-là ou de ces noms et tout, à moins d'être vraiment assez pointu, ça te dit rien, tu passes à côté. Alors que c'est dans l'inconscient collectif des Ricains, au même titre pratiquement que Superman, que Batman, que des héros de comics, quoi.
Le kidnapping d'un célèbre aviateur qui a mené Lindbergh, à la création d'un célèbre bureau d'investigation.
Voilà. Et là, il s'agit de l'histoire des Hatfields and des McCoys. Et ça, c'est une très vieille histoire. Et en fait, c'est également, un fondement classique de l'histoire et, de la tragédie, hein. Parce que, c'est presque shakespearien. En fait, parce que c'est des histoires de famille qui s'opposent, de trahison, de vengeance, d'union. Il y a eu même un moment, une histoire qui ressemble à Roméo et Juliette, tu vois. Deux êtres qui s'aiment, mais qui sont pas de la même famille. Bref, tout ça, c'est réuni dans cette histoire des Hatfield et les McCoys. Alors, historiquement, bien sûr qu'ils ont existé, hein, de toute façon, quoi. C'est une histoire, une rivalité qui s'est développée au XVIIIe siècle qui a opposé dans la Virginie de l'Ouest et dans le nord-est du Kentucky, deux familles qui, en fait, étaient séparées par une rivière qui s'appelait la Sandy River ou la Tug Frog, un truc comme ça, et qui donc étaient chacun de leur côté. Et en fait, ce sont des immigrants. Les McCoy sont des immigrants qui viennent de Belfast. Enfin, le premier McCoy est un immigrant né à Belfast, en Irlande, et qui a immigré du côté de la Virginie. Et les Hatfield sont des Anglais. Le grand-père Hatfield est également un immigrant anglais qui se retrouve pratiquement du même coin. Et en fait, cette bagarre, elle commence avec une petite tuerie, on va dire, quoi, pour défendre plus ou moins leur bien, pour défendre leur honneur, parce que des deux familles, les deux, après la guerre de sécession, ou la Civil War comme eux ils en parlent, les deux familles étaient parties du côté des rangs des confédérés, sauf un membre de la famille des McCoy qui est allé
qui a visé le bon côté,
qui était allé se battre du côté de l'Union. Après la guerre, tout le monde revient à ses affaires civiles et tout, sauf que ça plaît pas à un certain Hatfield qui décide de dégommer le McCoy qui a trahi les deux familles, en fait, hein, et qui donc le dégomme. Et c'est le point de départ. Et ça arrive donc en janvier, le 7 janvier 1865. 13 ans plus tard, un autre meurtre, celui de Bill Staton, un petit peu pas pour la même raison du tout, parce que bien l'un des membres disait que l'autre mec, un autre mec de l'autre famille lui avait volé un cochon, et puis bon voilà quoi, bon bah ok, ça se réglait à coup de flingue. Ça s'est un petit peu gâté suite à cette histoire 4 ans plus tard, et là il y a carrément eu 4 morts quand même le même jour, hein, le 9 août 1882. Un petit peu plus tard également, en 1886, encore un petit mort, histoire de régler les comptes. Et il y a eu le fameux massacre dont pratiquement tout le monde a entendu parler aux États-Unis en 1888, où là, pareil, ils sont quatre, est tombé après une course-poursuite, une attaque de maison, enfin bon, le truc, le pur western, quoi, vraiment le pur western.
On vient de tweeter, sur l'émission, sur le compte de l'émission, justement, la page Wikipédia anglophone qui résume l'affaire. Il y en a des tartines, quoi, ça a l'air d'être un sacré roman.
Oui, elle est là.
Ah, oui, d'accord, je me disais, il a les bonnes dates.
Ok. Et ça se termine. C'est pas le dernier, mais enfin bon, c'est le dernier officiel, quoi. Par la pendaison d'un des membres qui avait justement participé à la dernière tuerie, quoi, qui a été pendu, donc reconnu coupable de meurtre. Alors ça s'est continué parce que bon bah c'est ça qui est vachement rigolo, quoi. C'est que ça a été adapté.
Oh,
quoi.
Non, on dit pas que c'est rigolo. On dit que c'est tragique.
Oui, enfin bon, tragique. Disons que c'est passé dans la grande histoire et c'est devenu un sujet de conversation, une expression, quoi. Et dès 1923, Buster Keaton fait un sketch avec cette rivalité entre les Hatfield et les McCoys. On retrouve également dans des trucs de Disney. On retrouve également dans un sketch d'Abbott et Costello.
Je découvre qu'en 79, ils ont été réunis pour un jeu. Télévisé, The Family Feud, c'est un peu, c'est la famille en or, quoi.
Non, mais j'allais y venir.
C'est hallucinant.
Non, mais j'allais y venir parce que, en fait, il y a également un film qui est un DTV qui a été tourné qui est sorti en 2012 avec pas moins de Jeff Fahey, Christian Slater et Perry King, Hatfield et McCoys, également des apparitions à la télé. Et justement, il y a eu ce fameux jeu qui célébrait plus ou moins pratiquement les 100 ans de cette rivalité, et les deux familles se sont réunies, et là maintenant désormais chaque année là-bas à cet endroit il y a une espèce de jamboree où les deux familles se réunissent, plein de gens viennent comme ça bouffer, passer un petit week-end et tout en l'honneur de cette rivalité ancienne des Hatfield et des McCoys.
Et pas de mort.
Non, maintenant, bon, bah, ok, quoi, c'est.
On sait jamais. C'est le sud profond. Hein. La Virginie.
Non, c'est pas vraiment le sud encore, quoi. C'est les confins, quoi, on va dire. Ouais. C'est les prémices, quoi. Tout ça, donc, pour vous dire que, en fait, si j'en parle, c'est parce que c'est une série qui va être diffusée une mini-série, donc, diffusée demain sur Canal+, à 20h55, donc, prime time et tout, ce qui est pas mal, ce qui est vraiment très, très sympa. Que les gens ont mis les moyens quand même, réalisateur Kevin Reynolds, qui a été conseillé par Kevin Costner, qui fait un grand retour. Enfin, lui, avec les westerns, il s'est toujours bien démerdé, on va dire, Danse avec les loups, bon, mais ça vaut ce que ça vaut, mais bon, ça a quand même gagné un maximum de récompenses. Bill Paxton, Tom Berenger, Powers Booth, ça a été tourné en Roumanie, en Transylvanie.
Ah.
Hein, pour avoir des belles forêts, des belles trucs.
Et de la défiscalisation.
Aussi. Et bon, ça a l'air d'être vraiment très très sympathique. C'est demain donc, demain soir, hein, Hatfield and the McCoys sur Canal+ à 20h55. Sinon, alors le samedi, qu'est-ce qu'on a ce soir? Du western, hein, sur RTL9 avec le Major Dundee de Peckinpah, Charlton Heston, Richard Harris et James Coburn. On a également sur NT1 ce soir à 22h20 l'homme du président de Eric Norris
Chuck.
Avec Chuck, bien sûr.
Pas la série de Chuck, hein.
Chuck Norris, bien sûr, qui défend le président Robert Urich en compagnie de Jennifer Tung. Ça va taper sur le métal.
On l'aura peut-être en VO pour le coup sur NT1.
Laisse tomber, il est déjà passé, c'est pas la peine. Et la particularité, c'est que le mec Chuck Norris, lui, il est pas garde du corps, un truc comme ça et tout. Non, il est prof d'université. Et donc c'est à lui qu'on fait appel pour défendre le président des États-Unis. Elle est énorme. C'est normal, c'est parce que c'est Chuck, quoi. Quand même, sur Sci-Fi. Une soirée qui a l'air mémorable. Alors armez-vous de pizza, de bière, de ce que vous voulez.
De pizza en cette saison.
Enfin ce que vous voulez, quoi, pour regarder à 20h45 Jabberwocky, la légende du dragon. Attention, c'est pas le Jabberwocky des Monty Python, pas du tout. Non, c'est celui de Stephen Monroe. récent, 2011, avec Michael Worth et Tamo Pennycat. Et c'est suivi à 22h20 de La Fureur des Gargouilles de Bill Corcoran avec Eric Balfour et Nick Mancuso.
D'accord.
Alors c'est pas du tout le genre de musique qu'il faut quoi pour vous parler de Joe Kidd.
J'ai le lecteur qui a planté, donc c'est difficile.
Joe Kidd, donc de John Sturges en 72, c'est sur Ciné Plus Tard. Ce soir à 20h45, Clint Eastwood, Robert Duvall, John Saxon, Don Strode, que demander de plus? Peut-être une comédie musicale sur TCM, c'est toujours ce soir à 20h40. « Oh, toi, ma charmante » de William A. Sater en 42. Alors lui, le bonhomme, c'est un type de... Ben, on va dire c'est un des pionniers du cinéma, il n'y a pas de problème. Il a commencé comme Keystone Cop, tu sais, les
flics
dans les Maxenet et tout,
ah,
quoi, qui se
faisaient
tout le temps niquer la gueule et tout, le mec avec la grande moustache, les flics en uniforme. Quoi. Bon, il a commencé comme ça, ensuite il est devenu réalisateur, il a fait plein de courts-métrages. Bon, on est muet hein, dans les années 20, ensuite il a continué dans le parlant, il a fait quelques petites comédies musicales assez sympathiques, dont cette « Oh, toi, ma charmante, You Were Never Lovelier » en version originale, avec pas moins de Rita Hayworth en face de Fred Astaire. Ça vaut son pesant de cacahuète,
ouais.
Je peux vous lire. Et il y a également Adolphe Menjou, donc c'est ce soir à 20h40 sur TCM. Demain, donc Hatfield de McCoy's, hein, c'est sur Canal+, donc je le rappelle. Sinon, Arte vous propose Jackie Brown, parce que Arte fait dans le Summer of Soul tout cet été, mais seulement bon, la plupart des trucs qui nous passent, c'est après minuit, donc c'est un petit peu désagréable, on va dire. Hein, c'est un peu con, quoi. Bon, et tant pis, c'est comme ça. Par contre, bon, bah, c'est Jackie Brown, c'est sur Arte. Ça se... Hein. Il m'a remis Sébastien Tellier.
Non.
Non, ah bon.
Non. Mais non. Strawberry Letter 23. Ah, Brother ouais. Johnson, c'est dans le film.
Ah, mais oui, oui. Ok, donc ça c'est Jackie Brown sur Arte demain soir à 20h45. Sinon, sur France 4 demain à 22h30, Agora de Alejandro Amenábar. Avec Rachel Weisz, Marc Minghella, Oliver Isaac et Michael Lonsdal. Excellent film, très bien, hein, que j'ai vu cette semaine.
C'est une série.
Et que je trouve vraiment très bien.
Film,
non, c'est le film qui raconte l'histoire de la philosophe et scientifique Hypatie en l'an 391 de notre ère à Alexandrie.
Et chroniqué par Thomas.
Chroniqué par Thomas. Et ouais. C'est surtout un film sur le fanatisme religieux. C'est vraiment très très bien foutu. Hein.
Manif pour tous, coucou.
Ça paraît long comme ça, quoi, sur le papier, mais c'est vraiment nickel. Et par contre, c'est quand même assez violent, quoi. Sur Ciné Plus Frisson demain soir à 22h55, Troll Hunter, un film norvégien d'Arne Overdahl avec Otto Jespersen, qu'il faut pas traîner dans la forêt norvégienne et dégoter des trolls parce que sinon bah ils sont pas contents et donc ils foutent la merde. Sur Ciné FX, il y a demain à 21h La Vengeance de Fu Manchu de Jeremy Sommers avec Christopher Lee et Tony Ferrer.
Revu et puis bon, Christopher Lee en Fu Manchu.
Fu Manchu quoi.
Bon, OK, Jesus Franco. Il est direct.
Il y en a pas. Désolé, il y en a pas.
Mais non, mais lundi, il en a fait deux, donc.
Oui. Enfin, lundi, sur France 2, 20h45, une nouvelle série anglaise qui remplace les séries américaines Closer, Castle et tout ça. Alors, ça peut être la bonne surprise, comme l'avait été Castle, qui avait été diffusée en test pendant l'été. Rappelle-toi les premiers épisodes de Castle.
Oui, mais je crois que la série que tu parles, elle a commencé à être diffusée lundi dernier, je l'ai regardée.
Non, c'est...
Dis le nom.
Meurtre au paradis.
Ah oui, non, pardon, non, ils ont mis, il y avait une série canadienne,
non.
Donc, Meurtre au paradis, non, je l'ai pas encore vu, ça a l'air assez british, je veux dire, mais c'est plus dans la campagne.
Mais non, mais c'est plus dans la campagne parce que ça se passe aux Caraïbes.
Aux Caraïbes, ouais, c'est ça qui va être drôle. Le thé va être un petit peu chaud.
Voilà, donc c'est lundi sur France 2 à partir de 20h45, par contre, déjà, ils se sont dit, on va faire comme les autres, on diffuse pas dans l'ordre.
Oh merde.
Alors, le premier épisode, au début normal, le shérif est mort. Ensuite, il y a Noce de sang qui est le quatrième épisode. Et ensuite, il y a La mariée était en blanc qui est le deuxième épisode de la série.
Il y a eu un gros déchaînement sur les réseaux sociaux mercredi dernier avec la fin de Sherlock qui a été diffusée. France 2 a diffusé d'abord les épisodes de la seconde saison. Et en deuxième partie de soirée, les épisodes de la première saison. Donc, première journée, on a eu saison 2, épisode 1, suivi de saison 1, épisode 1. Et là, donc, c'était saison 2, épisode 3, la fin, où Sherlock meurt à la fin. Et ensuite, eh ben, Sherlock était ressuscité et Moriarty s'est déguisé en infirmier. Il l'a pas reconnu. Donc, c'était absolument débile, hein, commande de diffusion. Voilà, franchement, je ne comprends pas la télé publique. Lamentable.
Allez, sur Canal Plus Sport, toujours lundi à 20h55, The Two Escobars, des oui. frangins zimbalistes, l'histoire du joueur de foot Andrés Escobar et du patron du cartel de Medellin, Pablo Escobar.
À rapprocher de la série, à rapprocher de la série qui passe sur France O d'ailleurs, sur Escobar.
Sur France O, là, c'est la novella colombienne.
Oui, oui, tout
oui,
à
oui.
fait.
Oui, non, là, c'est un reportage.
Oui, je sais, là, c'est le reportage.
Documentaire.
C'est qui a été primé internationalement yes. et tout ça.
Hein. Yes, voilà. Donc, c'est sur Canal Plus Sport, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est lundi à 20h55. Sinon, sur Arte, à 22h35, un document à ne pas louper, c'est un goût docu-fiction. Donc, avec des mises en scène et tout ça. Mais qui raconte quand même la vérité. Enfin, la vérité du réalisateur, de Joachim Lang. C'est complètement inédit, hein, ça date de cette année, ça s'appelle, ça raconte la vie de Heinrich George. Qui est Heinz George, ben, c'est tout simplement le père de Götz George Szymanski, et qui a été un des acteurs les plus connus de l'avant-guerre, Deuxième Guerre mondiale, et qui a fini sa vie un petit peu tristement, parce que bon, bah, comme lui, il a continué à être très connu et a continué à travailler sous le régime nazi. Bon, bah, il a été un petit peu affilié, on va dire, il était obligé de fréquenter certaines gens qui, après-guerre, n'étaient pas du tout fréquentables. Donc, il est parti en camp, enfin, tout ça. Il a chopé une maladie, et puis bon, il s'est jamais remis de cette aventure. Il est mort quelques années plus tard, autant que je me souvienne. C'est pour ça que je vais regarder à nouveau ce documentaire. Surtout que, bon, ben, c'est interprété, je veux dire, dans ce docu-fiction, le rôle du père est interprété par le film. Donc c'est Götz George qui va interpréter le rôle de son père dans ce
docu-fiction. Pas mal.
Donc là, ça peut être vachement intéressant.
Non, ça veut dire quand même que c'est peut-être un petit peu orienté dans les intérêts de la famille.
Pas forcément, parce que bon, à écouter le père Götz raconter ce qu'il savait de son père dans ce dans un précédent documentaire qu'on avait pu voir sur Arte et qui était vraiment très très bien foutu, c'est pas de ce côté-là qu'il faut se tourner, à mon avis.
D'accord.
du tout. Okay. Du tout.
Regardez Meet the Original Version.
Alors donc ça c'est lundi sur Arte à 22h35, sinon sur France 4, une soirée bridée. Avec à 20h45 Shaolin Basket de Shen Yuping avec Jay Chou.
Très mauvais.
Les deux Tsang, Kenneth et Eric et Charlene Choi. Pourtant, bon, bah, c'est du gros budget, hein, je veux dire.
C'est du gros budget, mais ça surfait sur Shaolin Soccer. D'ailleurs, ça porte même pas ce nom, d'ailleurs, en VO. Et c'est du cinéma d'exploitation pur et dur. On fait de la copie, du copier-coller, et c'est merdique.
Voilà. Par contre, juste après, il y a un documentaire inédit qui s'appelle I Am Bruce Lee. Documentaire de Patrick McCormack qui date de l'année dernière, donc je t'hésite quand même un petit coup d'œil. Sur Cinéfix, lundi à 21h, Signal, une aventure dans l'espace, un film de science-fiction polonais de Gerhard Kolditz avec Karin Ugowski et Yuri Darier. Ça peut être sympa, quoi.
Ça peut être sympa. Ils ont passé un
1970,
film. Et ils ont passé aussi un film russe. Et j'ai pas réussi à le voir, donc je ne sais pas si la version qu'ils ont passée, c'était la version qui a été remontée par les Américains en topless et tout ça.
Alors,
puisque c'est vrai que ces films-là, il y a deux sources. Hein. Il y a les sources telles qu'elles ont été distribuées à l'international, et souvent on les remontait avec des acteurs qui parlaient anglais, qui montraient leur sein et tout ça, etc. Et la version originale, Tartovsky et tout ça. Donc c'est assez intéressant aussi des fois de voir les différences entre les deux. C'est un autre type d'exploitation malsain du cinéma.
Alors, l'exploitation malsaine, non, elle est pas malsaine du tout.
Non, mais
c'est celle de la franchise Star Trek. Mardi, on continue avec la série Star Trek sur RTL9 à 20h45, le Star Trek 3. Le premier réalisé par Leonard Nimoy, alias Dr. Spock. Et c'est celui qui...
Qui est le plus drôle.
Ouais. Et puis il y a une partie de cette histoire du 3 qui se retrouve dans le Into Darkness, alors que
Into Darkness, ça c'est depuis
c'est
le 2.
Le truc, c'est, depuis... c'est ça qui est assez rigolo. Quoi.
Ouais, mais c'est depuis le 2 justement où ils ont essayé de faire une chronologie et tout ça. C'était ce qu'on avait dit dans la spéciale Star Trek quand ils ont écarté l'auteur original.
Non, mais à l'époque je l'avais pas vu Into Darkness. Et depuis je suis allé le voir le film, donc c'est pour ça que je peux mieux en parler.
Oui.
Voilà, ouais. Tout simplement.
Donc c'est assez rigolo. Alors, c'est avec une veine écologique d'ailleurs hein, c'était les préoccupations à l'époque de l'auteur.
Ouais mais enfin pas encore autant que le 4 où le 4 c'était vraiment c'était le coup avec les baleines. Où c'était là, c'était vraiment le truc écolo, ça veut dire sauver la terre et tout,
oui, tout ça.
La totale quoi. Donc ça c'est sur RTL9 mardi prochain ou alors sur D8 à 20h50 Piège à haut risque. The Patriot de Dean Semler. Dean Semler, alors c'est un mec qui est vachement connu. En plus, ça je savais pas du tout quoi, parce que c'est un directeur de la photographie qui, alors il a fait que deux films, dont celui-là, en tant que réalisateur, mais comme directeur de la photographie, le mec il a fait Mad Max 2, Mad Max 3, il a fait Top Gun, il a fait Danse avec les loups, il a fait Waterworld, enfin bon. Tu regardes la liste, tu dis ah bon, ah ouais. Et pourtant c'est un film de Steven Seagal, avec Steven Seagal dedans hein, donc et c'est le premier de la carrière de Steven Seagal qui fait DTV, c'est-à-dire direct to vidéo, qui a été prévu pour les salles mais qui
non,
désolé. Et pourtant le sujet a l'air très intéressant quand même, donc Steven Seagal. Steven Seagal, eh bien, il va plus ou moins défendre sa famille et le monde entier d'un virus qu'un méchant nationaliste.
Il va virer le virus à coup de tatane.
Non, justement, quoi, la particularité, c'est que dans ce film, il n'y a pas beaucoup de tatane. Si vous cherchez de la tatane, labellisez Steven Seagal dans ce film, il y en a un petit peu quand même, c'est normal. Mais bon, déjà, faut attendre au moins une demi-heure, presque trois quarts d'heure pour le premier combat, quoi. Donc, laisse tomber, c'est pas ça. Non, il est plutôt scientifique et tout. Et puis bon, il cherche à savoir pourquoi un type qui a l'air d'être de droite et tout, genre, tu sais, les nationalistes ricains, là, je sais pas quoi, comment ils s'appellent, les patriotes, quoi, qui, ont plein d'armes et tout, et puis veulent régenter le monde. Bref, Steven Seagal, il va quand même y arriver, ça c'est clair et tout, quoi. Mais c'est normal, c'est Steven Seagal, c'est sur D8 à 20h50, Piège à haut risque. Ou alors sur D17, j'ai pour vous également, toujours mardi prochain à 20h50, Rainfall de Max Mannix. On l'invente pas ce nom, c'est comme ça. Ça date de 2009 avec Kiper Shina, avec Misa Shimizu. Tu devineras que ça se passe au Japon. Mais heureusement, pour qu'on comprenne, il y a Gary Oldman. Ciné plus classique à 22h20. Toujours mardi prochain, El Chuncho, un western de Damiano Damiani. Celui qui nous a fait un génie, un associé de cloche
oui,
entre
oui.
autres. Et il a fait quelques Terrencil aussi, quoi. Sans problème, et là, bien, c'est plutôt dans le genre western spaghetti, un petit peu violent, avec John Maria Volonté, Klaus Kinski et Lou Castel. S'il vous plaît. TCM vous propose également à 20h40. Alors d'abord, j'ai pas reconnu le titre, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je crois que je connais ce film et tout, quoi, parce que le titre français, c'est Le Paradis des Mauvais Garçons. Alors c'est le film de Sternberg et Nick Rey, parce que bon, Sternberg, il y avait des problèmes de studio, bon voilà quoi, donc les deux sont crédités, avec Robert Mitchum, Jane Russell et Gloria Graham, et quand je me suis dit, mais non, mais c'est Macao tout simplement, ben oui, c'est Macao, ça passe sur TCM, mardi prochain à 20h40, mercredi sur Sci-Fi, Raptor Island de Stanley Isaacs avec Lorenzo Lamas, Stephen Bauer et Peter Jason. Si avec ça ils arrivent pas à dégommer le Raptor, je sais pas ce qu'il leur faut, hein. Chuck Norris.
Un bon outil de 3D.
Chuck Norris en plus peut-être. Ciné plus premier, toujours mercredi prochain à 20h45, vous propose Warrior de Gavin O'Connor avec Joel Edgerton, Tom Hardy, Nick Nolte et Jennifer Morrison. Ça a l'air appétissant
quand
même.
Bien,
hein,
ça peut être bien.
Par contre, Ciné plus FX vous propose à 21h50 les aventures de l'homme invisible de John Carpenter. Bon. Les avis
c'est pas le même
sur
souffle.
Ce film.
C'est pas le même souffle, effectivement, que celui des années 20, des années 30, pardon. Mais c'est un Carpenter, qui essaie de faire un remake qui est honorable et qui met sa patte dessus. Bon, voilà. Non.
OCS Géant, toujours sur, c'est mercredi prochain, 20h40, vous propose un western de Joseph M. Newman en 58, Fort Massacre avec. Forest Tucker, Jazz, Joël Macri et John Russell. Jeudi sur RTL9 à 20h45, ça c'est pas du western, c'est un film de guerre. C'est Les Centurions de Mark Robson. Mark Robson, c'est quand même le mec qui a fait The Harder They Fall, qui l'Express du Colonel Von Ryan, qui a fait juste avant ce film d'ailleurs. Bon réalisateur. Et là, il adapte donc le bouquin de Jean Lartigui, Les Centurions, donc qui raconte la guerre. C'est quand même très militariste et très orienté, on va dire, Algérie française, quoi, on va dire, hein, parce que c'est là. Hein, d'accord, ok.
Ah oui, non, ouais,
avec vrai. Anthony Quinn, Alain Delon, Georges Segal et Michel Morgan. Sur Sci-Fi, Mega Shark versus Octopus de Jack Perez.
Rigolo.
Ouais, c'est celui qui nous avait fait Malibu Shark Attack aussi.
Oui, bah, ils en font plein. Hein.
Et puis il y a Lorenzo Lamas.
Voilà. Hein. Et si vous avez le temps, essayez de retrouver donc chez nos collègues de Nanarland que l'on a dû justement l'interview du distributeur français. Pourquoi il distribue ce genre de film et quel est le mode de pensée derrière. Très 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 intéressant. Et en même temps, voilà quoi, on apprend qu'ils font ça vraiment pour se marrer.
Toujours jeudi sur Ciné Plus Classique, là, c'est un grand chef-d'œuvre de Billy Wilder, La vie privée de Sherlock Holmes, avec Robert Stevens dans le rôle de Sherlock et Colin Blakely dans le rôle de Watson.
Il sort à temps maintenant que le mariage gay est passé, parce que c'est une putain de parodie ce film, et en même temps, il y a une très très bonne histoire.
Il y a plein de degrés de lecture en plus, c'est ça qui est vachement intéressant, quoi.
Ah oui, c'est vraiment à se pisser dessus de rire. Ouais.
Et par contre, sur TCM, là, c'est un petit peu moins rigolo, mais enfin bon, c'est vraiment aussi un chef-d'œuvre du cinéma. Qui a précipité la chute d'ailleurs de Michael Powell, c'est Le Voyeur, donc avec Carl Böhm dans le rôle titre et tout. Carl Böhm qu'on avait vu dans Les Sissi, et là, bon, c'est pas du tout la même chose, du tout.
Pas du tout.
Ah, que du tout, quoi. Et ça lui a pas réussi, hein, parce que bon, justement, il a été blacklisté des studios, quoi. Il a plus rien tourné après, il a pratiquement été ruiné pour cette histoire. Enfin, bref, il a fallu que des gens, je crois que c'est Scorsese qui a réhabiliter le film 10 ans après, quoi, en disant putain, déconnez pas et tout, pour que on reconnaisse un petit peu que le film soit nouveau visible aussi, hein. Et ça continue avec un autre bon film de Jacques Tourneur juste après Le Voyeur à 22h30, La Griffe du passé, avec Mitchum et Jane Greer. Polar vous propose Les Caïds à 21h. Toujours jeudi prochain, de Robert Angrico avec Serge Reggiani, Michel Constantin, Jean Bouise, que des gueules du cinéma français des années 70. Ça se laisse toujours voir, sympathique, c'est pas mal, c'est rafraîchissant. Ou alors, là, vous avez loupé la première diffusion, mais sur la chaîne Histoire, eh bien, on vous diffuse Les Rois Maudits tous les jeudis. Donc,
ça, attends, la série française?
La série française de Claude
Barma. C'est les années 70?
72. Jeudi prochain, c'est numéro 2.
C'est une mise en scène minimale parce que c'est tourné en vidéo à l'époque, mais voilà. Il y a Capiche, d'ailleurs, il me semble. Il y a vraiment une toilette d'acteurs énorme et la mise en scène est minimale, mais justement c'est là où on voit la portée des mots et l'écriture. Et si vous avez pas lu d'ailleurs les romans,
alors c'est adapté des Rois Maudits de Maurice Druon
de l'Académie française.
Et donc c'est pas mal, c'est sympa.
C'est un bon moment à regarder, honnêtement.
Alors ça, c'est sur la chaîne Histoire, donc c'est tous les jeudis, et donc c'est jeudi prochain, La Reine étranglée, le numéro 2, il y a 6 téléfilms comme ça qui suivent. L'histoire commence en fait quand Philippe le Bel crame les Qatars. Sois maudit, et tout, toi, toute ton engeance et tout. C'est ça un petit peu le fil des Rois Maudits, en fait. Et là, dans le deuxième, on en est déjà à Charles X.
Donc, si vous avez vu il y a une dizaine d'années la série qui a été faite par TF1 pour TF1 pardon par Dayan si je me trompe, elle est beaucoup moins intéressante justement que cette série originelle, hein. Mais après arriver à rentrer dans le fait que c'est de la télévision filmée, du théâtre avec des décors minimalistes, ça a rien à voir en termes de production, mais c'est là où on voit la qualité d'acteur.
Non, mais quand vous voyez les acteurs
voilà, quoi. T'es calmé.
Ouais, ça calme, quoi. Vendredi, on termine avec, donc sur Arte, La Vénitienne de Sarah Sarella. Un téléfilm français, un polar, on va dire. C'est diffusé sur Arte le vendredi soir, donc, avec Thierry Frémont dans le rôle de l'inspecteur. Ouais. Il a obtenu un prix au Festival de La Rochelle de la télé en 2010. Il y a également Hélène Sezoret, Brigitte Cotillon et Tonio Descanel. Sur RTL 9 à 22h35, Retour à la fac de Todd Phillips. Ah oui, avec
ça m'inquiète. Hein. Le nom m'inquiète.
Ah bah quand tu vas voir la distribution, Luke Wilson, Will Ferrell, Vince Vaughn, Hélène Pompeo, merde. Jeremy Piven et Juliette Lewis.
Je suis pas pressé que ça soit leur entrée.
Aïe, sinon vous pouvez vous faire également
Je suis désolé, hein, mais.
Sur Ciné Plus Premier, toujours à 22h35, The Killer Inside Me, la version de Michael Winterbottom, pas mal, hein,
ouais,
franchement.
Bien,
quoi.
Bien, très bien.
Un peu glauque, on va dire.
Ah, hein, c'est le film.
C'est bon, l'histoire, hein, ouais. C'est l'histoire.
Ouais, ouais. Sur Ciné Plus Star, Jeremiah Johnson de Ciné Pollack avec Robert Redford, bien, impeccable. Et sur FX, ça va un petit peu nous changer des, justement, des autres monstres qu'on avait pu voir. On avait vu Gamera contre je sais pas qui. On avait vu également un des premiers.
Il y a eu Prisonnière des Martiens, il y en a tout plein.
Ouais. Et là, eh bien, le film du vendredi soir sur FX consacré aux monstres japonais, c'est Dogora d'Inoshiro Honda, hein, donc
toujours le même. C'est le créateur, c'est le papa.
Hop là, et il s'agit d'une espèce de bestiole qui kidnappe tous les diamants qui existent sur la Terre, quoi, qui disparaissent comme ça et tout, quoi. Il y a un virus, c'est pas trop. Voilà. Alors ça fout le bordel, quoi, forcément, quoi.
Et alors CinéFX a passé un film quand même. Voilà. J'aimerais bien qu'un jour il le reprogramme. Alors là, on parle d'un grand monstre qui kidnappe, mais imaginez qu'on kidnappe un réalisateur pour faire un film de grand monstre. Et quand le mec qui a demandé ce kidnapping pour faire ce film est le leader de Corée du Nord, eh ben oui, c'est une vraie histoire, et je sais qu'ils l'ont dans leur catalogue chez AB, ils l'ont quelque part. Ça pourrait être intéressant qu'ils le passent, faudrait faire un bon dossier là-dessus, ce serait sympa. Oh, mais bon, on peut toujours rêver.
Ah oui, rêve. Action, vendredi prochain, à 21h, Saludos Hombre, de Sergio Solima, avec Thomas Millán, José Teres et Donald O'Brien. Et on termine avec OCS Choc, qui vous propose, alors je vois pas pourquoi c'est tellement choc, c'est plutôt un film culte, tiré d'une bande dessinée culte, Tank Girl, de Richard Talalay.
Avec une très bonne bande son.
Ouais, et puis Laurie Petty, magnifique, Ice-T.
Oui, Ice-T méconnaissable, hein, forcément.
Iggy Pop, génial. Malcolm McDowell, enfin bon, mais le film il est culte aussi, quoi. Je veux dire, c'est pas une grosse réussite, c'est pas un chef-d'œuvre. Mais bon,
tu peux pas du tout, hein. C'est un film MTV.
Le revoir.
C'est un film MTV, super flashy et tout ça, avec les plans de coupe de la bande dessinée. Et plus tard, eh ben, figurez-vous que le dessinateur a aidé à la création d'un groupe mythique. Dont les personnages sont intégralement animés.
Gorillaz.
Eh oui,
c'est lui. Hein, c'est lui qui a fait Tank Girl, quoi, justement. Quoi.
Voilà. Donc, vraiment, si vous ne connaissez pas la série, c'est une bonne introduction, surtout que la série est assez punk et elle est en cours de réédition chez Ankama.
Mais justement, j'étais en train de me demander s'il n'y avait pas une réédition, mais donc, il y avait de nouvelles moutures, quoi, justement, de Tank Girl, quoi.
Oui, mais c'est chez Ankama, le catalogue actuellement.
Ah, bah, on va attendre que Thomas rentre, alors.
Ah bah oui, mais c'est pas encore la semaine prochaine.
Bah non.
Puisque la semaine prochaine, on sera encore tous les deux à tenir le crachoir. Ouais. Mince, il va falloir que je lise des livres d'ici là. Ce qui est un petit peu dommage, mais bon, on va bien vous trouver quelque chose, ma foi. Après tout, c'est l'été, on va peut-être sortir un petit truc, un petit vieux dossier ou un petit truc inédit, je ne sais pas encore. Attendant... Que voulez-vous ? Qu'est-ce que l'on a suivi dans cette émission ? Ma foi, on a parlé d'un grand ponte de la manga en France, on a parlé d'un homme truqué, on a parlé d'un manchot écolo mais rigolo. On a dit qu'après tout, c'est tout moi et un cinquième témoin. Est-ce que je manquais d'autres choses ?
Ah bah oui, parce que moi j'avais noté du rétro-futurisme steampunk, du numéro 10 à Zonf. Du polar de plage, de la petite histoire qui devient grande, des requins, des casseurs de bras, des leveurs de jambes en jean et pas mal de western.
Ma foi, si vous avez manqué tout ça, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site web de l'émission supplémentweekend.fr, sans accent ni tiré, supplémentweekend.fr, vous pouvez podcaster, comme on dit depuis 8 ans, puisqu'on est le plus vieux podcast, hein, francophone toujours, donc vous pouvez aussi réécouter pratiquement toutes nos anciennes émissions, posez vos questions, n'hésitez pas, sur aussi, ça nous ferait extrêmement plaisir, et pour cela c'est très simple, supplémentweekend.fr. Vous écoutez Radio FMR sur 89.1, MHz sans modulation de fréquence sur Toulouse. Et nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM sur cette fréquence. Et en continu sur www.radio-fmr.net avec nos programmes alternatifs aussi. dans le prochain épisode. Et bah, service minimum d'été. En attendant, nous vous rappelons les consignes de sécurité de base. Stay calm and keep freshy. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, sur Radio FMR 89.1 MHz. Ou sinon sur les podcasts et sur les streams. Ciao, bye bye. Portez-vous bien et profitez bien de l'été. On vous promet une rentrée bien, bien, bien agitée. Et ne nous quittez pas du sport pour la suite.